One, two, three, four.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, votre heure radiophonique de ville lausannoise, la dernière avant la pause estivale. Et pour fêter justement cette dernière au programme de cette émission, c'est trois sujets que nous allons vous proposer. Et comme nous sommes le 4 juillet, le premier mardi du mois de juillet, on va commencer ce soir avec notre habituelle pause syndicale, Fabio.
Oui, et aujourd'hui on va parler de courant et d'électricien. On a invité quelques représentants des électriciens vaudois qui luttent pour des améliorations dans leur travail, dans leur profession. On sera ainsi au courant d'une situation sous tension.
C'est très bien. Comme ça, tu vas nous apporter un peu de lumière à ce côté obscur. Enfin, dans une vingtaine de minutes, Cultiver Lausanne, nous parlerons des estivales. Non, pas tout de suite. D'abord, 20 minutes, la Rose des Vents, bien sûr. La Rose des Vents, ce sera avec toi, Daniel.
Oui, bonsoir, Fabien.
Bonsoir, Daniel. Et nous allons recevoir l'association Columbia Vivet.
Oui, alors, une association que nous avons donc déjà reçue en mai 2016, dans le cadre, en fait, d'une série spéciale dans laquelle nous parlions donc de la Colombie, de la Chine et du Sénégal. Et ce soir, donc, on va revenir sur les activités culturelles de Columbia Vivet en mettant un coup de projecteur sur la fête nationale de 2017 à laquelle vous êtes invité si vous aimez danser la musique sud-américaine et qui est particulièrement symbolique pour l'association.
Voilà, tous les détails dans une vingtaine de minutes. Et puis à 7h20, Cultiver Lausanne, nous parlerons des estivales, Jean-Luc.
Oui, alors il y a beaucoup d'événements au niveau de l'été, dans les estivales. Ça sera du 21 mai, enfin ça a déjà commencé, c'était à partir du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Oui. Voilà, on relèvera quelques événements.
Voilà, et puis tu as également prévu quelques morceaux choisis qui sont proposés dans les compilations de troc. Tout ça pour nous faire vivre l'été, la pause syndicale avec les électriciens, Columbia Vivet et les estivales 2017. C'est le programme de ce dernier grand direct de la saison à écouter sur radio.django.fm et en DAB sur la fabrique tout autour du bassin Lémanique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et comme tous les premiers mardis du mois, voici la rubrique consacrée au monde syndical. Jingle.
La pause syndicale.
Et puis Fabio, aujourd'hui nous plongeons dans le monde sous tension, c'est le cas de le dire, des électriciens vaudois.
Oui Fabien, les électro-vaudois sont fâchés et l'ont fait savoir à de nombreuses reprises ces derniers mois. Dans la rue lors de la manifestation du 1er mai et le mardi 20 juin où ils étaient plus de 100 à protester à la Riponne à Lausanne.
Effectivement, et pour y voir un petit peu plus clair, trois invités autour de la table.
Oui, nous avons le plaisir d'accueillir deux électriciens et membres du comité UNIA des électriciens vaudois, Caril Dubry et Miguel Freitas Viveiros. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Et ainsi que Pablo Guarino, secrétaire syndical. Salut.
Salut.
Salut. Alors, expliquez-nous un peu les raisons de cette colère.
Alors,
Caril, merci.
Alors, au fait, notre convention collective arrive en fin de session, fin 2018. Et on a, grâce à UNIA et avec UNIA, on a monté ce comité des électriciens vaudois pour justement changer cette convention qui est, on va dire, depuis 10, 20 ans, est franchement devenue obsolète et n'a pas changé par rapport à plein d'autres corps de métier du bâtiment.
Puis alors, cette convention, de quoi elle se nourrit? Et puis, quelles sont les choses qu'il faudrait vraiment changer dans cette...
Alors, on a quelques revendications principales. Déjà, une augmentation des salaires pour tous, bien entendu, pas seulement les salaires minimaux, qui sont dans le bâtiment les plus bas dans les branches du bâtiment, comparé à des maçons, à des sanitaires, à des chauffagistes, plâtriers, peintres, etc. On a un métier qui est quand même hyper technique. L'apprentissage dure 4 ans. Et voilà, on a une formation continue quasi obligatoire C'est un métier qui est en
perpétuel. Qui évolue énormément.
Surtout dans la télécommunication, maintenant, la téléphonie, l'informatique. Donc, on est obligé de suivre. Parce que si, par exemple, on arrête ce métier pendant 5 ans, enfin, même peut-être pas 5 ans, peut-être pendant 3 ans.
Les choses ont tellement changé.
On arrive, on est complètement largué. Donc, il y a déjà ça. C'est vrai que les salaires sont très bas.
Tu peux nous dire un peu les différences entre les différences de salaire avec un autre corps de métier?
On a regardé un petit peu, on va dire en moyenne. Ouais. On est entre 1000 et 500, entre 500 francs et 1000 francs moins payés que la majorité des
autres corps de métier du bâtiment.
Voilà, exactement.
Ah ouais. Oui, et puis il y a, j'imagine aussi, des concurrences, mais des différences cantonales.
Alors, il y a la convention collective est nationale.
Ok.
Maintenant, au niveau des Valaisans, ils ont réussi à obtenir des avenants valaisans par rapport à la convention. Et les Genevois se sont carrément retirés de la convention collective nationale.
Parce qu'ils ont une convention qui est plus...
la convention des...
Alors voilà, je peux ajouter une précision en disant...
Pablo, secrétaire syndical.
Alors voilà, donc disons que la convention en effet est nationale. Donc elle est de force obligatoire pour toutes les entreprises, sauf pour le canton du Valais et le canton de Genève. Respectivement le canton de Genève qui est l'exemple le plus qui illustre le mieux la situation actuelle, c'est... Ils ont rejoint la convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève. Et puis là, on voit une différence de salaire de l'ordre de 4 à 5 francs par heure, avec disons des indemnités repas en moyenne de 3 francs plus élevés. Donc il y a des grosses différences, alors que c'est des voisins finalement directs. Donc c'est pour ça voilà que le combat des électriciens vaudois est légitime.
Oui. Miguel, il arrive aussi que des électriciens vaudois aillent travailler sur le sol genevois, par exemple.
Oui, ou des fribourgeois sur le canton de Vaud. Tout dépend des intérêts au niveau fiscaux qu'ils ont, au niveau des majorations, au niveau des salaires, comme on a parlé.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un électricien qui se déplace sur Genève sera bénéficiaire non seulement du temps de déplacement, comme des frais de repas et des majorations qu'il pourra avoir sur le canton. Donc à partir du moment où il traverse le canton, vaudois, il est bénéficiaire et majoritaire de ces valeurs. Quoi.
Oui, mais donc il ne se déplace pas tout seul, il se déplace avec l'entreprise.
Exactement.
Hein, c'est ça. Parce que par exemple, j'avais cru voir que les indemnités pour le repas, là aussi, il y a une différence entre les vaudois et puis un peu le reste du monde. Allez.
Voilà, si on prend typiquement un exemple avec les collègues qui côtoient les électriciens sur les chantiers, les sanitaires, eux, leurs frais de repas sont à 20 francs, typiquement. Alors qu'un électricien, il va toucher 12 francs de frais de repas. Pourtant, il mange pareil,
a priori.
Donc voilà, c'est clair que les arguments sont là. On sait que ce métier doit être revalorisé de manière, importante. Et puis, c'est pour ça voilà, qu'on fait un peu ce développement du comité et puis ces actions.
D'accord. Il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où les électriciens se sont unis. C'est à la suite de quelque chose de particulier?
Alors, disons, le comité s'est officiellement constitué en mars de l'année passée, en mars 2016. Mais tu fais peut-être référence à l'action qu'on a fait contre une entreprise.
Oui, je pensais à ça.
Alors voilà, donc on a fait... Le comité s'est réuni un peu dans une opération, disons, une opération coup de poing, devant le siège d'une entreprise à Étoy. Pour ne pas la nommer, c'est Lotte Électricité. Donc, c'est une entreprise qui illustrait pas mal les pratiques de nombreuses autres entreprises de violations systématiques de la convention collective, notamment sur des temps de déplacement qui n'étaient pas rémunérés aux travailleurs, notamment sur le non-respect des salaires minimums, sur des déductions de salaires injustifiées, disons énormément de choses. Mais sans rentrer dans les détails, ce qu'on devrait retenir, c'est qu'une minorité de travailleurs dans cette entreprise ont fait appel à ce comité. Et puis, ensemble, on a décidé, en donnant la parole aux électriciens qui étaient présents à ce comité, de qu'est-ce qu'on faisait pour stopper les agissements de cette entreprise. Soit on va par la procédure juridique, et puis finalement, c'est des procédures qui sont très longues et finalement assez frustrantes pour les travailleurs, puisqu'ils n'obtiennent jamais gain de cause. Ou alors, on se réunit ensemble, et puis on fait parler la force, et puis on va devant le siège, et puis on va dénoncer ça auprès des médias, etc. Donc c'est ce qu'on a fait.
Donc c'était vraiment une action directe. Hein,
c'est une action directe. Parce qu'on pense, voilà, on a vu maintenant, ça, on a eu un accord, l'entreprise s'est engagée à respecter la convention collective, s'en est ressorti quelque chose de très positif. Et puis on a vu que voilà, un comité organisé, il peut renverser, disons, cette peur qui existe chez beaucoup de travailleurs de pas dénoncer les choses parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, etc. Mais on voit qu'une organisation, disons, efficace, elle permet d'inverser cette tendance et puis d'avoir gain de cause, quoi, puisque finalement, c'est ce qui est arrivé.
Et c'est à partir de cet exemple-là, de l'auto-électricité, que tout à coup, ça, c'est le comité s'est renforcé et puis qui a commencé un peu à être de plus en plus actif.
Alors c'est clair, cette action, elle a eu un écho très important à travers les réseaux sociaux, à travers, disons, les journaux aussi. Le bouche à oreille fonctionne très bien sur les chantiers. Et puis, il y a peu de travailleurs de l'électricité qui ne sont pas au courant de cette affaire. Et puis, c'était le but aussi, hein, c'était que l'information, elle passe. Et puis, le comité, il a décidé de dénoncer systématiquement les entreprises qui violeraient la convention collective. Donc voilà, le message est donné, quoi, aux entreprises qui ne respecteraient pas la convention collective.
D'accord. On va entendre un petit extrait.
Il y a une hémorragie de travailleurs dans la branche qualifiée, des gens qui sont dégoûtés, ils font le CFC, puis après ils préfèrent aller bosser à la voirie ou comme gendarmes. Donc il y a vraiment des motifs à... Il y a une inquiétude à se faire aussi pour le patronat dans cette branche. Il y a un énorme gâchis de moyens, de formation et de moyens humains de gens.
Mais voilà, on vient d'entendre une intervention lors de la manifestation du 20 juin où il est clairement dit que la profession n'a pas un peu bonne presse, notamment au vu des conditions de travail et syndicales difficiles. Comment devient-on électricien? Quelles sont les compétences requises? Et est-ce qu'il s'agit d'un métier qui attire encore beaucoup de jeunes? Et là, on vient d'entendre justement dans ces mots que ces derniers, les jeunes, ont plutôt tendance à quitter la profession après l'apprentissage. Est-ce que c'est la réalité, Karil?
Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier, qui est en rapport maintenant avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, la technique et tout ça, la TV, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électriciens qui, malheureusement, quand ils se rendent compte de la tâche, du métier, de l'apprentissage, de la technique, voilà, quand ils commencent, je ne vais pas dire à 15 ans, qu'ils se rendent compte, ils se disent « j'ai gagné 4 900 francs, c'est cool ». Et puis quand ils arrivent à 20, 22 ans, ils se disent « ah, mais attends, voilà, c'est... les salaires leur font peur ». Et il y en a beaucoup qui arrêtent soit en cours de route ou qui font ce métier, qu'ils le font un moment, et puis le jour où ils trouvent une autre opportunité, la saisissent. Moi, je me rappelle, on était une dizaine de copains électro.
En apprentissage.
En apprentissage. Je suis un des derniers sur les 10 qui pratique encore ce métier.
Vous parlez d'électro, c'est à tout niveau de compétences dans le domaine de l'électricité?
Alors, le CFC de monteur électricien de mon époque, maintenant c'est installateur électricien. Et justement, il y avait eu un petit problème, il y avait eu tellement d'échecs en quatrième année d'apprentissage qu'ils ont dû faire une petite voie supplémentaire, c'est le CFC d'électricien de montage. Donc en gros, si on veut bien, c'est un CFC de manœuvre qualifiée. Voilà. Et il y en a beaucoup maintenant qui arrivent en quatrième année, qui ont de la peine et qui finissent par faire le CFC d'électricien de montage. Et soit ils arrêtent après, soit ils ont le petit déclic et puis ils se disent ils font le raccordement pour faire le CFC d'installateur électricien.
Et ce problème de conditions salariales, il est indifféremment dans l'une ou dans l'autre?
Oui.
C'est
dans toute la profession, ouais. Bien sûr.
Pablo, ça signifie qu'on manque d'électriciens aujourd'hui?
Alors, je pense qu'on ne manque pas forcément d'électriciens, on manque, d'électriciens qui se sentent valorisés puis qui veulent continuer dans ce métier. Il y a une vraie hémorragie, hein, d'électriciens qualifiés. On voit, pour l'anecdote, moi-même, j'étais électricien. J'ai décidé de mener un peu le combat autour. Mais disons que, en effet, moi, je constate dans mon ancienne classe, il y a beaucoup de personnes qui ont fait autre chose. Hein, pour donner un exemple, hein, sur les salaires minimaux qui est actuellement dans la branche, pour un collaborateur sans diplôme, donc qui n'a pas de CFC, c'est 3 850. Donc on est à moins de 4 000 francs sur des salaires minimaux. Et puis quelqu'un qui aurait eu son CFC, il a 4 050 francs. Donc ça reste des salaires des métiers qui sont très exigeants, où ils ont souvent la vie des gens entre leurs mains, puisqu'ils raccordent mal un fil, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc voilà.
Bien, bonjour à vous tous. Je voudrais simplement faire passer un message de combat. Je suis un ancien de l'entreprise Lot, dont vous a parlé Laurent tout à l'heure, et le combat qu'on a mené contre eux, qui n'était pas un combat homérique, mais qui a été un combat victorieux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé nos propres forces, en action directe. On a été voir le patron. C'est là-dessus qu'il a reculé. Maintenant, il faut savoir qu'avec la naissance du comité d'action, qui a maintenant un an, les patrons doivent savoir que s'ils ne respectent pas nos droits, on sera là. Ouais, on ne se laissera pas faire. Et même une fois la victoire obtenue, on restera un comité de vigilance. On les regardera, on les observera. Et si nécessaire, on les combattra. Cessons d'avoir peur. Maintenant, ils savent qu'on est là et on ne reculera pas. Merci à vous.
Voici l'ouvrier qui galvanise les présents lors de la manifestation du 20 juin. Cet ancien électro de l'entreprise Lotte, dont tu parlais tout à l'heure, Caril, qui, rappelons-le, a violé plusieurs reprises la CCT, illustre la capacité qu'on a, que vous avez, vous, les électros, à vous organiser et qui souligne aussi l'importance de rester unis. On constate aussi à travers ce que vous venez de nous présenter maintenant que le comité des électriciens vaudois est très actif. Miguel, Quelles sont les revendications des électros aujourd'hui pour améliorer la situation du métier?
Alors, comme déjà cité, on aimerait une négociation au niveau national de cette CCT pour améliorer les conditions de travail pour tous. Et dans le cas échéant, on aimerait également donc faire soit comme Genève, soit comme le Valais, avoir un avenant vaudois pour améliorer la condition des travailleurs vaudois dans ce cas-là.
Pablo, une vision syndicale du futur.
Voilà, disons actuellement, on est au bénéfice d'une convention nationale, ce qui est très bien finalement, parce qu'elle oblige toutes les entreprises sur le territoire suisse qui font de l'installation électrique à respecter les conventions et des minimums. Mais c'est clair, le conseil est qu'il y a une énorme marge de progression dans cette convention collective. Et puis, actuellement, il y a un article, l'article 6.3 de la convention collective des installateurs électriciens, qui empêche d'améliorer les conventions localement. Alors, actuellement, on est empêché par cet article d'établir un rapport de force, disons, cantonal, et puis d'améliorer les conditions dans notre canton. Alors, nous, on a une première revendication au niveau national, c'est la valorisation des salaires pour tous, mais également la suppression de cet article qui nous empêche d'améliorer les conditions.
Au niveau cantonal?
Au niveau cantonal.
Et puis, alors, quelles sont les démarches à faire par rapport à ça?
Alors, la démarche dans une convention nationale, c'est d'établir un rapport de force national.
Oui,
actuellement. On constate que en Suisse, il y a une dynamique inexistante pour les électriciens. Il y a peu de cantons, il y a des mouvements un peu au Tessin, à Neuchâtel, dans les cantons disons latins, mais on constate qu'en Suisse allemande, il n'y a pas beaucoup de mobilisation. Alors nous, on doit établir ce rapport de force national, et puis ensuite établir le rapport de force ici au canton avec nos partenaires sociaux, et puis améliorer les conditions localement.
Eh bien voilà, merci beaucoup messieurs Pablo Guarino, Caril Dubry et Miguel Freitas Vivera. Merci beaucoup d'être venus nous parler de votre profession
et
des remous qu'elle vit actuellement. Merci beaucoup et on rappelle que vous êtes respectivement secrétaire syndical artisanat et responsable de l'artisanat chez Unia Vaud. Oui Fabio?
Non, c'est bon.
C'est bon.
Non, c'est bien.
C'est tout juste. Et puis également tous praticiens de la profession. Merci beaucoup. Et merci également tout particulièrement à nos amis et collègues de l'événement syndical qui ont enregistré les sons lors de la manifestation du 20 juin. Et puis, comme d'habitude, pour continuer notre rubrique mensuelle, voici quelques brèves du monde syndical.
Transport public de la Riviera. Les chauffeurs s'échauffent.
Une quarantaine de membres de la section du syndicat des transports publics de la Riviera Vaudoise sont montés au front le 19 juin dernier en manifestant devant le siège de leur entreprise. Les conducteurs demandent un aménagement du temps de travail qui tienne davantage compte de leur vie familiale et sociale. La question des horaires de travail est lancinante dans l'entreprise depuis plusieurs années.
Les marins du Léman soutiennent les grévistes du lac Majeur.
La section du syndicat du personnel des transports de la CGN est allée apporter son soutien aux grévistes du lac Majeur mardi 27 juin. Marco Formosa, le président de la section, a en effet rallié le Tessin avec des collègues du lac de Neuchâtel et de Morat. Il s'est dit profondément indigné par ce licenciement collectif de 34 personnes pour la fin de l'année. La grève a débuté le dimanche 25 juin.
Nouvelle journée de grève pour le personnel de Thermofisher.
Le 20 juin dernier, les employés de Thermofisher à Écublon ont à nouveau fait grève durant une journée. L'Assemblée générale, tenue la veille, avait discuté du résultat des négociations entre la direction, la commission du personnel et le syndicat après la grève de 6 jours en avril dernier, suite à l'annonce de la délocalisation de 95 postes sur 65 en République tchèque. Après ce nouveau bras de fer et la remise au Grand Conseil d'une pétition ayant recueilli milliers de signatures pour le maintien des emplois, les discussions avec la direction ont repris. Après avoir obtenu le sauvetage de 11 postes de travail sur une ligne de production, un accord sur le plan social a été conclu.
Maltraitance sur l'aire d'autoroute de Bursin.
Unia est intervenue il y a 15 jours devant le café Zigolini du restaurant de Bursin pour dénoncer les maltraitances subies par le personnel. Non-respect de la loi sur le travail et des pauses, propos racistes répétés, remarques dégradantes, pressions en tout genre étaient le lot des 3 salariés qui s'en sont plaintes au syndicat et de certaines de leurs collègues. Des tractations avec la direction qui nie le reproche à son encontre sont en cours.
Les big boss sont toujours plus riches.
Le syndicat Unia a publié sa nouvelle étude sur les différences de salaire entre les PDG des 40 grandes entreprises de Suisse et ceux des employés les moins bien payés de leur société. Premier constat, alors que les big boss se sont octroyés en 2016 des hausses de salaire moyenne de 7%, les travailleurs n'ont obtenu que 0,7% en moyenne. Deuxième constat, les écarts entre haut et bas revenus se creusent toujours plus. La palme revient au patron de Roche, Séverin Schwann, qui gagne 266 fois plus en une année que le salarié le moins bien payé de son entreprise. Chez Syngenta, où l'écart n'est que de 1 à 163, le patron gagne quand même 643 000 francs par mois et l'ouvrier 3 960. Indécent.
Et voilà ce que le monde syndical nous transmet comme information en ce début du mois de juillet 2017. Merci beaucoup à Fabio et à Valérie pour la préparation de ce sujet. Un sujet qu'on peut réécouter sur notre site www.django.fm, sur celui de l'événement syndical aussi. Et puis on retrouve la pause syndicale à partir du mois de septembre. Ce sera le premier mardi du mois.
When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart.
Miracle, c'est signé Julian Peretta à 18h23 sur Radio Django.
Radio Django, la rose des vents.
Et ce soir dans la rose des vents, un sujet sur Colombia Vive, une association colombienne à Lausanne qui est née en 2001. Cette association que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir une première fois sur Django, c'était au printemps 2016 dans le cadre d'une émission spéciale, vous l'aviez peut-être suivi, Horizon Colombie. Daniel, pourriez-vous brièvement nous rappeler ce que fait l'association Colombia Vive ?
Alors la principale mission de Colombia Vive est de soutenir et d'accompagner les Colombiens qui arrivent en Suisse dans leur démarche administrative. À cet effet, l'association a mis en place un service de conseil et d'orientation pour permettre aux nouveaux arrivants de se familiariser avec les domaines de la santé, du travail et de l'éducation. Et elle offre également un service d'interprétariat. Dans un autre registre, Colombia Vive propose un ensemble d'activités culturelles pour d'une part promouvoir la richesse de la culture colombienne et d'autre part créer des espaces d'échange interculturel pour une intégration transversale. Nous reviendrons sur ces activités avec un coup de projecteur sur la fête nationale de 2017, un événement incontournable si vous aimez la musique et danser et symbolique pour Colombia Vive.
Symbolique pour quelle raison, Daniel ?
2017 marque en fait la deuxième édition de cette fête nationale organisée chaque année par Colombia Vive, un événement qui au cours de ses 15 ans a évolué pour devenir une véritable manifestation estivale ancrée dans le paysage lausannois.
Et là, on a besoin du son numéro 1 qui est dans la zone grise, il faut le remettre. On va l'écouter tout de suite. Le son 1 qui est un petit peu plus haut encore. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. On va écouter le bon son qui va arriver. On ne désespère pas. Voilà, si c'est celui-ci, en le mettant tout en haut. Voilà, en mettant avec... On va d'abord revenir au début du son. S'il est d'accord, le son, de revenir tout au début. On regarde avec la technique, c'est du direct. Hein.
Absolument.
Ça, c'est du direct, c'est
mais
les aléas du direct.
Il nous rappellera que pour Roré, cette fête est le joyau national de la couronne.
Voilà. Daniel, on va revenir avec ce son dans un petit instant puisqu'on a un problème technique. Qu'est-ce qui a rendu cette fête si populaire, Daniel ?
Alors, son caractère festif, familial et culturel. Et nous y sommes.
Non, on n'y est pas encore tout à fait. Expliquez-nous peut-être en quelques mots justement cette fête.
Justement, alors cette fête en fait a toute une histoire, c'est-à-dire qu'à ses débuts, elle n'était composée que d'une cinquantaine de personnes. Uh-huh. On peut remonter donc à 15 ans en arrière et cette manifestation est justement l'occasion de fêter les 15 ans de cette fête nationale. Donc, et cette fête qui à l'origine en fait ne se vivait que sur une seule journée est devenue un réel festival et qui a eu l'occasion de faire 3 jours de festival l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Et cette année, on va revenir à 2 jours.
Alors ce soir, je vous propose déjà d'accueillir hein, peut-être nos deux invités. Jorge, bonsoir.
Si, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes fondateur de Colombia Vive, vous êtes également secrétaire et responsable du festival. Bienvenue sur Radio Django. Et puis à nos côtés, également Maria Victoria Bejarano.
Bonsoir, merci.
C'est ça votre nom, on le prononce
bien
comme
prononcé,
ça
merci.
C'est pas. Merci. Vous êtes adjointe Colombie.
Culturelle,
voilà.
Ça, c'est culturel.
Ouais. Et colombienne.
De Colombia Vive, bien sûr. Expliquez-nous peut-être, Maria Victoria, pour commencer, que symbolise cette fête historique en Colombie ?
En fait, c'est l'indépendance de la Colombie de les Espagnols, en fait. Parce qu'il y avait plein de pays qui étaient sur le domaine espagnol. Mmh. Et il y avait... la conquête, etc. Et après, il y a une révolution qui, pour nous, ça signifie la séparation du domaine espagnol. Voilà.
De vous être libéré, finalement, oui. De la domination espagnole.
Oui,
c'est, ouais, c'est ça, exactement. On a une légende aussi urbaine, populaire, qui dit que les trois couleurs de la Colombie, ça représente la beauté d'une femme. Avec les cheveux jaunes, les yeux bleus et puis les lèvres rouges. Et
est-ce que vous pensez que tous les Sud-Américains ont les yeux bleus ?
Non, c'est que la personne qui a porté ce drapeau en Colombie, en Amérique latine, c'est Francisco Miranda. Et puis il est passé par l'Europe et puis il a fait connaissance des femmes. Mais ça reste une légende.
Donc il est resté impressionné par la beauté de cette femme aux yeux bleus.
Oui, exactement. Mais c'est la version originale, c'est la plus proche, c'est la vraie.
La première.
Mais sinon, au quotidien, par exemple, si on prend cette année le 20 juillet, comment ça va se passer dans les familles et dans différentes villes de Colombie au niveau des festivités qui peuvent être proposées ? Est-ce que c'est toujours un cortège militaire ou est-ce qu'on sort un petit peu des sentiers battus ?
Non, c'est toujours un cortège militaire. En Colombie, la fête d'indépendance, la fête nationale, c'est montrer la puissance militaire de l'État.
Surtout à Bogota, la capitale, il y a un grand cortège avec les avions, les chevaux, les chiens, les policiers, etc. Et voilà, c'est un grand cortège.
Mais dans le contexte actuel qui s'est pacifié, je pense que ce serait plutôt quelque chose d'un peu plus harmonieux qu'un vrai cortège militaire pour montrer sa force.
Mais il faut dire que même si c'est un cortège militaire qui est assez représentatif de l'identité colombienne, au moins pour une partie de la population, il y a dans certains petits villages que ça reste une fête populaire et puis ça me transporte mes années de jeunesse, qu'on allait dans Et c'est vraiment dans des petits villages que c'est une fête populaire, et puis on mange, on boit, et puis on danse comme en Colombie. Comme
donc ça reste ça, très festif.
C'est vraiment, c'est très festif, mais c'est plutôt dans les petits villages. Mais vraiment les petits villages. Et puis l'autre, comme il disait Maria Victoria, mais on met le drapeau partout.
Ah ouais,
on met le drapeau. Et puis même, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, la personne qui ne mettait pas le drapeau dans la façade de leur maison, il avait une amende.
Ah, carrément une amende.
Carrément une amende, mais je crois que
c'est le sentiment patriotique.
La fibre.
Oui.
Que nous réserve le programme cette année pour cette édition 2017?
Bon, pour cette année, c'est une édition spéciale, c'est les chansons de la fête. Ça fait 15 ans qu'on a commencé, et puis c'est vraiment plein de succès, des histoires qu'on a eues, des activités. Et puis cette année, on a voulu rendre hommage à la salsa colombienne, comme genre, comme musique. Et puis on a fait contact avec un mythe de la salsa colombienne, qui c'est Wilson Manjoma, on dit Saoko. C'est vraiment un des personnages mythiques de la salsa. Il est d'origine de Cali, que c'est la capitale mondiale de la salsa. Mm-hmm. Et puis vraiment, en tout cas, tous les gens de ma génération, on a dansé, on a appris à danser avec le rythme, les chansons de Wilson Manjoma de Saoko. Voilà, c'est la tête d'affiche de notre festival cette année.
Mais comment est-ce qu'il est venu un dieu de la salsa? Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques brides de son histoire, peut-être, Marie-Victoria ou Roré?
Le Cali, c'est la capitale de la salsa, et puis c'est une histoire, c'est lié à la révolution cubaine, à la migration de Cubains, des Caribéens vers la Colombie, et puis qui sont arrivés dans les implantations de canne de sucre à Cali. Ce n'est pas par hasard, le Cuba, Cali. Et puis dans les quartiers populaires, et puis grâce à la puissance de sa voix, Wilson Manjoma, petit à petit, il a commencé à chanter dans des petits clubs, et puis il s'est fait remarquer tout de suite. Et puis il a commencé à chanter à Medellín et à Barranquilla, qui sont les deux autres capitales de salsa colombienne. Et puis voilà, c'est grâce à sa voix, c'est surtout sa voix qui est caractéristique chez lui, qui s'est imposée.
Et est-ce qu'il a des paroles engagées un petit peu?
Disons que la salsa des années 70, que ça représente Wilson Manjoma, c'est pas forcément des paroles engagées politiquement, mais ça représente un sentiment populaire, ça représente plutôt la classe ouvrière à l'époque qui dansait ces chansons. On se sentait représenté dans ces chansons, et dans ces sons-là, c'est des paroles engagées.
Et à l'époque aussi, si je peux ajouter, il avait la grande orchestra, il jouait avec les grandes orchestras, et c'est ça qui faisait aussi la puissance, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça continue comme ça.
C'est une belle manière de s'engager aussi. Oui. Et puis je pense qu'il y a le rythme aussi, en fait, qui reflète la vie des Cubains et des Colombiens. Colombiens, pardon.
Ouais. Non, c'est...
Pourquoi avoir choisi d'inviter dimanche pour souligner la fête nationale, ce groupe Guadalupe? Mais avant de mieux découvrir ce groupe avec Roré, écoutons un extrait, Janeiro, un morceau en fait de cet ensemble.
Et on a de nouveau un petit souci technique à voir. Le son, le deuxième son, est-ce qu'on arrive à l'écouter peut-être? Allez, on essaye de relancer la machine pour voir si le son arrive à partir depuis le début cette fois-ci. Hein, c'est un extrait, Daniel.
Alors de ce groupe, donc Guadalupe.
Guadalupe.
Et on pourrait Guadalupe. Demander, pour entrer en matière finalement, pourquoi avoir choisi ce groupe et d'où vient-il?
Ah, on l'écoute.
Ah, on y est.
C'est une jolie mise en bouche, hein, pour le groupe Grupo Guadalupe, Daniel.
De quelle région vient ce groupe?
Pardon, le Grupo Guadalupe, ça représente pour nous un désir depuis qu'on organise la première fois la fête nationale de représenter la Colombie à travers un genre de musique qui nous touche beaucoup aux Colombiens. Parce qu'il y a tout le monde qui croit que la Colombie, c'est que la salsa ou la cumbia. Et puis cette année, on a voulu engager ce groupe qui fait la musique llanera, comme on dit en Colombie, que c'est, parce que c'est une musique qui vient de la plaine colombienne avec la frontière avec la Colombie.
Le Venezuela.
La plaine colombienne avec la frontière avec le Venezuela. On partage ce type de musique, tant la Venezuela comme la Colombie. Et puis pour nous, ça représente beaucoup ce groupe parce qu'il a un nom qui est Guadalupe. Et puis Guadalupe, à l'origine, c'est un chef de guérilla colombien des années 50, des siècles passés, qui s'est rebellé contre le gouvernement de l'époque et qui torturait, massacrait des paysans. Et puis il a pris les armes, une espèce de résistance civile. Et puis après, il a fait des négociations, des dialogues, des négociations avec le gouvernement colombien. Et puis malheureusement, il a été assassiné dans les rues de Bogota après les négociations. Et ça nous met dans le contexte actuel de la Colombie qui a un processus de paix, de négociations, de démobilisation des guérillas populaires. Et puis voilà, on espère que ça ne va pas se répéter l'histoire. Voilà le contexte pourquoi on a engagé ce groupe, à part que ça représente une musique de liberté pour les Colombiens.
Mais les Colombiens sont révolutionnaires dans l'âme. Et puis en écoutant, en pensant donc à Mañana, enfin au groupe Saoko et à Guadalupe, on a quand même l'impression en fait que ces groupes reflètent non seulement des régions, mais aussi un mode de pensée et gardent en elles des fibres pour un combat pour la liberté. Qu'est-ce qui fait l'organisation et la force de ce festival? Est-ce que c'est son budget ou ses bénévoles?
Ce sont plutôt les bénévoles. Parce qu'on part de la base, que c'est le travail qu'on fait et tous les gens qui viennent.
Mais alors, c'est qui ces bénévoles? Expliquez-nous, Maria Victoria.
Tout le monde peut faire partie de la fête colombienne, n'importe la nationalité, des hommes, des femmes, et n'importe d'où viennent. Simplement, c'est l'engagement qu'ils peuvent faire avec nous. Simplement.
C'est pour compléter l'information, c'est bénévole. Jusqu'à l'année passée, c'était que des Colombiens qui faisaient partie de la plupart des membres de l'association. Mais à partir de l'année passée, on a vu qu'il y a des bénévoles de toute l'Amérique latine qui s'engagent dans notre manifestation. Et puis cette année, on a eu des Suisses, parce qu'on a mis une annonce dans le bénévolat. Et puis il y a des gens qui se sont annoncés. Et puis aujourd'hui, pour cette année, on a pas mal, Et la fête, le festival s'organise avec une soixantaine, 70 bénévoles plutôt, tout le monde engagé. Puis cette année, on a plus ou moins 8-10 Suisses qui vont venir à donner un coup de main à notre festival.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez en fait que ces bénévoles suisses et colombiens et d'autres origines en fait vivent ce moment autour du festival comme le El Barrio? Et pourriez-vous nous expliquer ce que ça veut dire en français? Merci.
El Barrio. C'est comme les quartiers, voilà. C'est les origines de la vie, la famille, les copains, l'enfance. C'est que tout ce qu'on a vécu chez nous.
C'est donc ce qu'on retrouve dans l'atmosphère du festival.
Oui, parce qu'il y a, les plats typiques traditionnels, mais pas seulement de la Colombie. On va en avoir d'Équateur, du Pérou. Et ça, c'est tellement important parce que si ça devient pas que Colombie...
Mais qu'est-ce qui en fait reflète cette vie de quartier en fait qu'on pourrait retrouver à Lausanne le temps d'un festival?
Ouais, c'est que au départ nous on a dit que on va faire une fête colombienne, mais comment on l'a fait dans les quartiers, dans les quartiers populaires de la Colombie, que c'est presque pareil dans tous les quartiers de l'Amérique latine. Et puis c'est une fête de rencontre entre copains. On se rencontre, on partage, et puis les membres de la famille viennent, toutes les générations confondues, pas seulement les adultes, mais il y a toutes les générations qui participent à travers les repas, la musique, la danse, et puis on peut retrouver des gens qui dansent, des petites, même des adultes. Ouais. Et puis c'est cette atmosphère-là qui vous allez trouver dans le festival de Colombia Vive. C'est vivre la Colombie sans prendre l'avion, comme on dit nous. Hein.
Il y a des gens qui viennent de tous les cantons parce qu'ils savent que c'est la fête colombienne.
Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en Suisse, c'est une dimension qui manque dans notre quotidien, justement ce El Barrio?
Oui, c'est pour ça qu'on vient ici à la fête colombienne, pour trouver ces sentiments.
Cette chaleur.
Cette chaleur, et les gens nous demandent la date précise de la fête pour congé, voilà.
Moi, j'ai la réponse, c'est le 22 et 23 juillet, donc voilà. Profitez de venir pour s'en inspirer. On le disait tout à l'heure, hein, ce festival, c'est aussi l'occasion de récolter des fonds hein, pour des projets solidaires. Comment vous avez choisi les projets qui ont été soutenus par le comité de Colombia Vive?
Ouais, c'est okay. Toutes nos activités, spécialement le festival, nous laisse des bénéfices, heureusement. Quoi. C'est, et puis, comme nous, on est une association à but non lucratif, et puis avec ces bénéfices, nous, on a décidé depuis le départ de rendre ces bénéfices aux ONG en Colombie qui travaillent spécialement avec les enfants dans le domaine de l'éducation. Alors, au départ, c'est tous les membres de l'association qui peuvent postuler des projets pour les soutenir. Il faut être membre de l'association pour présenter ces projets. Et puis, on choisit trois projets qui sont liés aux enfants, à l'éducation et à l'environnement. Et puis, on partage c'est une partie des bénéfices.
Donc, vous soutenez pour des projets qui sont en Colombie?
Ça nous est arrivé aussi de soutenir des projets ici.
Ouais. Et au Cameroun, je crois.
Comment?
Vous avez soutenu également un projet en Afrique.
En Tanzanie.
En Tanzanie, pardon.
On a soutenu
pardon.
Un projet.
Bon, ben voilà, on retiendra ces dates, hein, les 22 et 23 juillet à l'esplanade de Montbenon pour fêter en beauté cette 15e édition de la Fête nationale colombienne à Lausanne et profiter des concerts de notamment du Grupo Guadalupe le dimanche 23 juillet et le grand Wilson Maniama Saoko. Ce sera ce coup-là le samedi 22 juillet. Merci beaucoup, Jorge Chari.
Merci pour l'invitation à Daniel et puis
Fabien.
Un grand plaisir, merci à vous et merci également à Maria Victoria.
Je peux ajouter juste un mot, c'est juste pour remercier à l'ambassade colombienne et puis à la ville de Lausanne qui nous soutient dans cette manifestation. Et puis cette année, on partage l'endroit avec l'Alliance, le festival Open Air, parce que nous au départ on faisait la fête trois jours, vendredi, et puis on s'est mis d'accord pour céder le vendredi pour cette manifestation. Et puis voilà, on invite tous les gens à venir. Et puis merci encore une fois.
Merci et on vous attend nombreux à la fête.
Avec plaisir.
Super rendez-vous à El Barrio.
Le 22, le week-end du 22 et 23 juillet. Le programme et tous les détails, c'est sur votre site columbiavive.com. On vous met évidemment le lien sur notre site avec le podcast de ce sujet, votre interview sur www.django.fm.
Hablo desde la prisión, Wilson Maniama, Hormona.
de l'air colombien avec ses rythmes de salsa hein, pour clore ce sujet qu'on a eu tout à l'heure avec Colombia Vive, ce festival qui aura lieu les 22 et 23 juillet. 18h46 sur Radio Django, on passe à Cultiver Lausanne.
Radio Django, culture.
Bonsoir Jean-Luc.
Oui, salut Fabien. Alors, on va passer au Lausanne Festival.
Eh ben, exactement, hein, parce que l'été à Lausanne commence sa vie culturelle par la fête de la musique. Hein, le 21 juin, on en a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Elle prend forme avec le Festival de la Cité, également du 4 au 9 juillet. Elle se prolonge même pendant 3 mois avec Lausanne Festival. Cette année, c'est la 41e édition. Des centaines de spectacles et des activités culturelles qui se succèdent du 21 juin au 21 septembre.
Oui, et puis le programme il est très vaste, hein. Il comporte des concerts, du théâtre, de la danse, des projections de films, des lectures, mais aussi des balades, des visites culturelles. Chaque jour, ce sont plusieurs événements qui se succèdent dans de multiples espaces de la ville. Et à noter quelque chose de particulier, c'est que la plupart des animations sont en plein air, évidemment, gratuites. Il y a quand même des solutions de repli qui sont chaque fois proposées aux spectateurs.
Oui, c'est une bonne idée, hein, parce qu'en été, on a quand même quelques orages de temps en temps.
Il y a des orages qui guettent hein, de temps en temps. Et toutes les activités sont à découvrir dans le programme, hein, mises à disposition dès le 9 juin sur Internet, l'application mobile de la ville de Lausanne et dans tous les points d'information de la ville de Lausanne.
Alors, il est impossible de louper quelques éléments du programme hein, que tu as relevé, Jean-Luc.
Nous avons choisi plutôt de mettre en évidence les balades. En fait, j'ai été surpris par le nombre de partenaires qui en proposent. Et il y en aura vraiment pour tous les goûts et quasiment chaque jour.
Un exemple peut-être.
Oui, un exemple. Première. On va démarrer avec les guides d'accueil du mouvement des aînés. Ils feront découvrir la cité. Alors, j'en parle de juste une ou deux balades. Oui. Hein, par des balades thématiques. Le lundi 10 juillet à 10h30, alors l'une est prévue autour des acteurs de la vie musicale lausannoise. Rendez-vous devant la fontaine de la Palue et dans l'après-midi une autre à la découverte des vieux commerces lausannois. C'est assez surprenant parce que c'est des personnes d'un certain âge qui suivent des cours. Enfin, voilà. Mm-hmm. Des jeunes retraités, comme moi bientôt.
Allons.
Et au fait, c'est intéressant parce qu'ils sont une soixantaine à Lausanne et voilà, ils organisent toute l'année des visites pour les touristes, etc., puis pour les Lausannois aussi.
D'accord, et puis cette balade, donc, notamment, est ouverte à tous qui en seront ce jour-là devant la fontaine
voilà
de
la Palue. Voilà, exactement. Ça, c'est le principe de Lausanne Estivale. Hein, tout est gratuit. Mais là, il n'y aura pas de zone de repli. Les gens iront vraiment promener par n'importe quel temps.
Effectivement, peut-être dans un bistrot, qui sait. Un autre événement, Pierre Corajou et ses balades insolites, hein, qui nous invitent le 9 juillet, par exemple, à découvrir 1001 arbres au coin de la rue.
Le 11 juillet, il proposera l'ouest par des chemins de traverse. Et le jeudi 13 juillet, à l'inverse, c'est chez les Cossus. On peut deviner où c'est. C'est du côté de Puy.
Effectivement. Et puis, quelques autres propositions pardon, à la langue fourche, des propositions originales avec Florian Nichols.
Oui, alors en fait, elle a un concept qui s'appelle « Je trottine dans ma ville ». C'est des petites balades qui sont proposées pour les familles et les enfants de 3 à 7 ans. Alors, il y en aura une, ça démarre le vendredi 4 juillet à 10h. Ce sera « Colline en poésie et comptine ». Départ de la Reine Mal et métro M1, arrivée à la Bourdonnette. Avec J'explore ma ville, hein, Florian Nichols, c'est la même personne, a mis en place d'autres promenades, aventures, mais pour les petits marcheurs qui ont quelques années de plus, ceux qui ont pris l'habitude de marcher, ben voilà, ils peuvent poursuivre avec cette autre organisation qu'elle a mis en place. Ça s'adresse aux familles pour les 6 à 10 ans. Alors demain, 5 juillet, hein, on ne va pas parler de ce qui se passe au mois de septembre, donc demain 5 juillet, c'est les pavés selle-pied. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un très beau métier, les paveurs, hein, lausannois. Mm-hmm. Ils ouvrent les portes de leur atelier, puis ils montrent aux jeunes explorateurs en quoi leur métier est en arrêt. C'est vrai que c'est chaque fois, moi, je suis surpris et ébahi de voir le travail de ces personnes. Hein, qui vraiment, c'est un sacré boulot. La première fois que j'ai vu ça, c'est en Hollande, parce qu'on sait qu'en Hollande, il y a encore plus de rues pavées qu'ici. Et c'est vraiment génial quoi, de les voir travailler.
Est-ce que tu aurais la patience de faire un pavage ?
Les sculpter, moi j'aime bien la sculpture sur bois. Ouais. Je pense que je pourrais sculpter des pavés. Pourquoi ? Je vais jeter des pavés dans la mare aussi. Hein,
pourquoi pas ? Stéphane, tu aurais la patience toi, de faire du pavage ?
Non, je crois pas.
Certainement pas. Encore quelques promenades avec les éditions Noir sur Blanc qui proposent des promenades littéraires, hein, Jean-Luc.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, il parle d'un écrivain. Et là, par exemple, c'est Jacques Chessé à la découverte de ses lieux favoris. Mmh. Donc c'est plutôt autour de la cité, puisqu'il était prof du gymnase de la cité. Et évidemment, il y aura un comédien qui lira des extraits de ses textes.
Et puis l'association culturelle pour le voyage en Suisse nous emmène également dans des balades autour de l'histoire et de la littérature.
Oui, alors là, une des premières, ce sera l'histoire de la sensibilité au temps. Alors, une invitation à s'y plonger l'espace de quelques soirs d'été dans la forêt de Sauvablin. Alors, eux, c'est intéressant parce que c'est une association qui émane de l'Université de Lausanne. Mm-hmm. Et ils organisent aussi tout au long de l'année des promenades qui sont surtout en relation avec l'histoire et de temps en temps aussi avec des gens de la littérature.
Et puis, voilà, c'était quelques exemples de balades. Il y en a beaucoup, hein, tu le disais, Jean.
Oui, alors c'est pour ça qu'on a voulu peut-être mettre l'accent, enfin, que j'ai voulu mettre l'accent là-dessus, parce qu'en fait, j'étais intrigué. Avant, je connaissais surtout Pierre Corajou. Et tout à coup, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui proposent ça tout au long de l'année. Et là, ben voilà, je crois que tous les jours, les gens vont pouvoir marcher, s'ils le désirent. Donc voilà, je pense que c'est bien de découvrir Lausanne en marche.
Mais pourquoi pas, effectivement.
C'est en mouvement, hein, c'est en marche, ouais. C'est d'une autre manière.
On le ramène chez nous aussi à notre niveau à Lausanne, en tout cas pour cet été. On peut consulter également le programme des estivales, hein, c'est sur Internet, pour avoir toutes les activités et les lieux de rendez-vous si vous n'avez pas pu les noter ce soir. Et puis, avant de parler avec Stéphane de quelques autres activités, on a prévu, Jean-Luc, c'est surtout toi qui as été relevé dans la compilation de Troc, quelques exemples musicaux.
Tout à fait, c'est que depuis bientôt 2 ans, ben, Troc, enfin depuis là, sans émission, c'est pas tout à fait 2 ans. Oui. Troc participe en fait à un des partenaires musicaux de Radio Django. Alors j'ai été rechercher un ou deux titres qu'ils nous avaient proposés ces dernières années. Et le premier, c'est Stand Up Tall, tiré de l'album Galactica du groupe Sumo de Genève, les deux frères Sumi.
Les deux frères qu'on écoute tout de suite pour vous sur Radio Django. Stand Up Tall, tiré de l'album Galactica du groupe genevois Les Sumo, Jean-Luc.
Oui, alors maintenant on va donner la parole à Stéphane, à notre chroniqueur, qui va nous parler de 2 ou 3 événements théâtraux qui auront lieu durant cet événement des estivales.
Ouais, notre ami Stéphane, expert en théâtre.
Le programme est effectivement très vaste, donc il y a juste 2-3 choses, que j'aimerais mettre un peu en lumière. Donc la première, malheureusement, est déjà passée, mais a priori, il devrait rejouer à quelque part, c'est la Fausse Polonaise par la compagnie Les Farceurs Lyriques, qui est un opéra assez librement adapté de Pergolesi, et qui est très très drôle. Donc même si on ne s'attend pas forcément à ça dans un opéra, donc il y a des loubards, des motards, et puis aussi une fausse polonaise, donc c'est très très rigolo. Et autrement, une autre compagnie qui est très bien, c'est la compagnie Mezzaluna.
Mezzaluna, et on écoute un premier extrait.
Il y a tant de choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie.
Un premier extrait, Stéphane.
Oui, alors... Donc, pour être honnête, je n'ai pas vu la pièce Tiramisu dont c'est tiré. Voilà. Mais du coup, je me réjouis d'y aller. Donc, finalement, c'est plutôt un privilège de pouvoir découvrir cette pièce. J'ai vu, en revanche, d'autres pièces de cette compagnie Mezzalune, notamment Gilgamesh, qui était tiré donc, de ce vieux... Enfin, de ce qui est considéré comme un des premiers récits épiques de l'histoire de l'humanité. J'ai aussi vu Le poids du papillon, d'après Eri De Luca, le célèbre romancier italien. Donc, à chaque fois, c'était vraiment très, très bien. Il y a notamment un gros travail qui est fait sur les éclairages, sur la scénographie aussi, qui est souvent dépouillée, mais en fait, ça, on ne s'en rend pas du tout compte, justement grâce au travail des éclairages. Et autrement, ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a toujours beaucoup de musique, notamment des chansons, comme dans ce Tiramisu.
Prenez-en neuf, prenez-en deux, du mascarpone, ce qu'il y a de mieux. Rajoute, rajoute, des petites prières, il y en a pour tous, et c'est sincère. Ça vous honore, prenons bien le temps à partager les bons moments. Ainsi la vie n'est pas amère, c'est tiramisu pour le dessert.
Tiramisu.
Effectivement, qui sera joué donc trois fois les 7, 8 et 9 juillet à partir de 19h à la Fondation de l'Ermitage, à la route du Signal 2.
Voilà, tout est dit pour ces activités type théâtral. On a parlé donc de balade en ouverture, on parlait de théâtre avec toi Stéphane, merci. On revient avec toi Jean-Luc, parce qu'il y a également des projections en plein air pendant les estivales.
On ne va pas relever tous les titres des films, mais par contre, on va dire qu'il y a une série de projections en plein air, hein, dans plusieurs lieux à Lausanne, au parc de Montrepos, hein, 10 toiles sous les étoiles, bien connu, avec une programmation assurée par le cinéma. Au parc de Valency, les bobines de Valency, c'est 4 projections de films dont les enfants sont les héros.
Voilà. Et puis on conclut évidemment, hein, vous le savez, la culture par de la musique.
Oui, alors il y a beaucoup de musique, mais il y a tous les concerts d'été de l'association 11 Plus de jazz, hein, au théâtre de Verdure. Il y a de la musique classique, la Haute École de musique de Lausanne et beaucoup d'autres endroits où il y aura des concerts.
Et puis un dernier.
Puis alors il y a un événement original qui est quand même un coup de cœur. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça sera assez génial. C'est le Marimba Day, c'est le 2 septembre. Qui transformera Lausanne en capitale du xylophone.
Ah ben on se réjouit, tiens, ça sera intéressant. Le 2 septembre, voilà, c'est noté. On rappelle donc que les estivales, c'est plus de 500 animations culturelles gratuites qui sont proposées tout au cœur de Lausanne du 21 juin au 21 septembre. Toutes les activités et le programme sont sur internet www.lausanne.ch/estival ou sur l'application mobile qui est prévue à cet effet. Merci beaucoup Jean-Luc.
Merci.
Et puis un bel été dans les estivales.
Oui, on ira marcher.
Absolument.
Se balader.
Écouter de la musique, du théâtre pour Stéphane, et j'en passe, et des plus belles. Merci beaucoup. Juste quelques notes pour la beauté du geste Kunstwerk Mellowtown. C'est un autre titre de Troc que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm et sur le site de Troc. Nous avons parlé ce soir de la pause syndicale avec les électriciens Columbia Vivet et les estivales 2017 accompagnés de quelques découvertes de troc. C'était les trois sujets de ce programme du mardi 4 juillet sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm, notre site qui accueille toujours les 450 sujets environ traités par le Grand Direct. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Grand Direct, c'est en effet la pause pour toute l'équipe, la pause estivale, ça tombe bien. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver le mardi 29 août à partir de 18h en direct et en public de Pôle Sud pour le début d'une nouvelle saison de Vie Lausannoise avec une équipe requinquée après l'été. Un tout grand merci à toute l'équipe qui s'investit tous les mardis durant cette saison 2016-2017, je les nomme.
Daniel, Fabio, Jean-Luc, Stéphane, Aline, Laure, Voix d'Exil, Ségolène, Isabelle, Aude, Nicolas, Désiré et évidemment tous ceux que j'oublie. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et merci à vous chers auditeurs qui nous êtes fidèles tous les mardis à partir de 18h. Pour ce qui est des rendez-vous de Radio Django, rendez-vous du 17 au 20 août avec le Festival Cinéma d'Afrique et puis, comme je le disais tout à l'heure, le 29 août pour la reprise du Grand Direct à partir de 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été et une très belle soirée à l'écoute de vos programmes, que ce soit sur Radio Django ou sur La Fabrique. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.